Bien, monsieur le maire, monsieur le président de la métropole, nous sommes très heureux de vous accueillir à l'Académie des sciences inscriptionnelles et lettres, et ceci pour au moins trois raisons. La première, vous le savez sans doute, vous êtes académicien né, donc vous êtes membre de droit de notre académie. Donc vous êtes pleinement chez vous ici, et nous nous réjouissons que vous puissiez assister à une de nos séances. La deuxième raison, c'est que nous avons ainsi l'opportunité de remercier à travers nous la municipalité pour l'hébergement qu'elle nous permet dans ce magnifique hôtel d'Assisard à la suite du legs historique aux ailes. Et nous apprécions très fortement l'accompagnement de la municipalité dans notre fonctionnement. Et enfin, la troisième raison, c'est que nous avons aussi l'occasion, avec votre venue, de vous présenter nos activités et notre dynamique. Alors, quand on parle d'académie, on pense à tradition. Mais l'académisme, souvent, est associé à une certaine lenteur, à un certain formalisme, à un certain entre-soi. Alors, nous revendiquons pleinement la tradition, et vigoureusement, mais nous récusons complètement les autres qualificatifs. Parce que nous sommes une académie très active, très ouverte sur le monde extérieur et sur notre époque. Alors, tout d'abord, la tradition. Alors, la tradition, c'est l'académie ancienne, dont on peut retrouver l'origine, 1640, mais qui a été officiellement élevée au rang d'académie royale par Louis XV en 1746, Académie royale des sciences inscriptionnelles et lettres. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'à cette époque, Toulouse était la seule ville en province à avoir deux académies. La nôtre et l'Académie des Jeux Floraux, un peu plus ancien. Et ceci traduisait la dimension culturelle de la cité. Il avait été qualifié il y a bien longtemps par le poète Martial de Toulouse la Panadière. Sagesse et raison. Donc les choses ont progressé et ces académies représentaient une dimension majeure de la vie culturelle et intellectuelle du siècle des Lumières à Toulouse, de façon tout à fait évidente. Mais, en particulier l'Académie des sciences, notre académie a été un pilote actif au niveau de nombreuses initiatives. Elle a été en particulier, ça va vous surprendre, à l'origine de la vocation scientifique de Toulouse. C'est notre académie que, au XVIIIe siècle, a créé deux instruments de recherche collective sur le site de Toulouse, qui étaient le jardin des plantes et l'observatoire. À une époque où la botanique et l'astronomie étaient des disciplines majeures. Un peu plus tard, en 1876, un de vos prédécesseurs, maire de Toulouse, Édouard Filleul, également membre de votre académie, a créé le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Et il a créé aussi la Société d'histoire naturelle de Toulouse. Un autre élément de la tradition, peut-être moins connu, en 1830, nous avons mis en dépôt au musée Saint-Raymond un médaillé d'une richesse extraordinaire, plus de 4000 pièces, médailles, pièces anciennes, romaines, grecques, qui est toujours en dépôt au musée Saint-Raymond. Donc vous voyez un certain nombre de ponctuations qui montrent notre présence active dans le paysage toulousain sur des périodes anciennes. Alors il est évident que, au-delà de ces manifestations, de ces interventions, toute une série de savants ont enrichi le parcours de l'Académie, dont deux nous glorifions particulièrement, qui sont deux prix Nobel, Paul Sabatier et Jean Tirole, membres de notre Académie, dont nous avons bénéficié des apports de ces savants. Alors, je voudrais maintenant vous parler un peu plus de ce que nous envisageons de faire et ce que nous faisons. Que représentons-nous à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, nous sommes une compagnie de 50 membres titulaires, 30 de la classe des sciences, 20 de la classe des lettres, et un nombre important également de correspondants, qui est l'étape préliminaire avant d'accéder au grade de titulaire. L'académie est pilotée par un président assisté par un directeur, dont les mandats sont très courts, il n'y a pas de cumul de mandat, nous avons un mandat de deux ans. le directeur devient président à l'issue du mandat du président, et l'ensemble est suivi par un secrétaire perpétuel, qui est le professeur Sica, qui a assuré la continuité du fonctionnement. Et nous sommes aidés par un bureau qui instruit les différents dossiers. Ce qu'il faut souligner, c'est que nous sommes une académie généraliste, polyvalente, qui associe une large palette de disciplines. Les sciences, bien sûr, mais les lettres au sens large, l'histoire, l'économie, la médecine. Nous sommes une académie pluraliste dans l'esprit des académies du deuxième siècle, des académies généralistes. Et nous avons, au point de vue de nos membres, essentiellement des représentants de la sphère universitaire, plus de 2/3, et un petit tiers de représentants du monde de l'entreprise, de l'industrie, des grands corps. Voilà notre profil. Alors, quelles sont nos activités principales et régulières? Nous avons tout d'abord des activités de veille scientifique et de production de connaissances à travers nos séances privées. Nous avons des séances privées, nous avons tous les 15 jours, nous avons une séance privée, comme aujourd'hui, le jeudi à 17h. Au cours desquels nos membres présentent des communications, des analyses, des synthèses sur des points divers, et ces éléments sont chaque année rassemblés dans les mémoires de notre académie qui sont publiés régulièrement. Ensuite, nous avons une forte activité dirigée vers le public et vers le grand public. Nous organisons chaque année une vingtaine de conférences publiques de haut niveau qui s'inscrivent dans deux cycles, les mardis d'Assisa ou les grandes ouvertures, qui est un partenariat avec l'Université Poissabatier, qui correspond davantage à des conférences débat où il y a une large place consacrée à la discussion, à l'éveil de l'esprit critique des personnes qui participent. Nous avons également une activité conséquente en matière d'organisation de colloques. Selon les années, nous organisons de 2 à 4 colloques. Cette année, c'est une année particulièrement riche, puisque nous allons organiser 4 colloques. Nous en avons organisé un au mois de février en partenariat avec l'Académie nationale des technologies qui était venue nous rendre visite sur les systèmes embarqués. Nous allons en organiser un sur la langue française, une langue à histoire. Nous allons en organiser un autre sur un hommage à notre regretté président, le président Larouy, en collaboration avec la Société d'anthropobiologie sur la diversité humaine au mois de juin. Et enfin, nous organiserons un colloque dans un nouveau partenariat avec l'Académie de Montpellier, puisque nous avons renforcé nos liens avec l'Académie de Montpellier, qui est sur la même région, sur l'agriculture du futur, au mois de septembre. Donc, une forte activité. Et enfin, dans nos activités, nous avons une certaine originalité, c'est notre attribution de prix, généralement à de jeunes docteurs, après leur thèse. Nous récompensons l'excellence scientifique chaque année, et nous attribuons plus d'une vingtaine de prix dans ces différents champs disciplinaires. Nous sommes la seule institution au plan local à couvrir justement aussi largement le secteur de la connaissance par l'attribution de ces prix. Et M. Francis Gard nous a fait l'honneur et la l'amitié cette année d'assister à cette séance officielle de remise des prix, qui était le 6 décembre. C'est une séance qui recueille toujours un grand intérêt vis-à-vis des lauréats, bien sûr, mais de leur environnement proche, famille, tuteurs, etc. Et au final, nous jouons aussi dans certains cas un rôle d'expertise et de conseil. Nous avons par exemple contribué fortement à la sauvegarde du site archéologique de Montmorin, à un moment où il était menacé par la mise en place de carrières. Quelles sont nos orientations à l'heure actuelle? Alors, nos orientations, c'est de rester un fer de lance au niveau toulousain dans la diffusion des connaissances, de la culture scientifique, mais aussi de la culture sous toutes ses formes. Je vous le disais, nous avons un nombre important de conférences publiques que nous organisons, et nous voulons être toujours en pointe dans ce domaine. Le deuxième objectif, à plus long terme, c'est notre implication croissante dans un partenariat avec lequel les sommes. Nous avons déjà engagé ce partenariat à 3 niveaux. Nous proposons des communications pour les cafés du quai. Nous proposons de délocaliser certaines de nos conférences publiques qui normalement sont dans la salle Clément Cizor, de les délocaliser au muséum, ce qui va être fait le 24 mai par une conférence avec un grand spécialiste espagnol sur le problème de la révolution technologique qui constitue l'édition du génome, par exemple. Et puis nous envisageons aussi à terme d'enrichir encore notre palette de prix par un prix qui serait décerné à la fois par le Quai des Savoirs et l'Académie des sciences intellectuelles et lettres sur des réalisations remarquables au niveau de la diffusion de la culture scientifique. Nous avons vraiment un engagement très fort un dialogue très, très construit et très fréquent avec le Quai des Savoirs. Et nous pensons aussi qu'étant donné notre rôle important dans cette diffusion de la culture scientifique au monde local, nous mériterions peut-être une représentation un petit peu plus formelle dans les structures de pilotage du Quai des Savoirs. Dans nos objectifs aussi, je vous les cite, nous avons la volonté de participer activement à l'ESOF 2018, d'avoir une visibilité assez forte dans l'ESOF 2018. Et nous pouvons aussi renforcer nos partenariats interacadémiques. Ce sont des opérations que nous avons nouées assez récemment, à la fois avec Bordeaux et avec Montpellier. Nous organisons des événements en commun. Je vous parlais du colloque futur de l'agriculture en public. Nous allons organiser cette année à septembre 2016. Nous pensons faire la suite de ce colloque en septembre 2017 à Toulouse. Montpellier, Toulouse, sur la même thématique, parce que le thème est tellement vaste, tellement complexe, qui mérite des éclairages complémentaires. Et je pense que ces partenariats et ces académies locales créer un lien utile dans le Grand Sud et permettre peut-être de connaître d'autres initiatives dans la continuité. Voilà ce que je voulais vous dire. Et nous avons aussi la volonté de participer aux initiatives de la métropole et de la ville dans notre domaine de compétences. Et nous sommes là, nous serions ravis d'être sollicités dans le domaine de compétences, dans les domaines où la transversalité peut s'exercer. Nous sommes des partenaires potentiels. Alors je terminerai en vous disant, mais en répondant à une question, quel est l'intérêt d'une académie au XXIe siècle? Alors que nous sommes dans un siècle d'hyper-spécialisation, et que nous représentons au contraire la transversalité. Mais je crois que notre spécificité, elle est double, elle est notre polyvalence et notre indépendance. Notre polyvalence nous permet d'avoir un regard pluriel et transversal et pluridisciplinaire sur un certain nombre de problématiques. Et notre indépendance, indépendance vis-à-vis des pouvoirs, des régions, de la politique, nous confère de la liberté. Nous sommes dégagés des pouvoirs dans la plupart des cas et ça nous permet un certain recul sur l'événement, sur les jugements. Et ça nous permet de nous dégager des mondes et des pensées uniques du monde. Voilà. Et ça nous permettrait de jouer un rôle peut-être utile de médiation dans certains cas, vis-à-vis du grand public par rapport à la perception ou par rapport à l'adhésion à certaines évolutions contestées, puisque nous serions les garants d'une continuité entre tradition et modernité, et puis nous avons notre vision pluridisciplinaire. Alors, on en arrive toujours à la fin du discours. En se disant, monsieur le maire va se demander, mais qu'est-ce qu'il va me demander quoi. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la rançon de notre indépendance, c'est notre manque cruel de moyens. Nous ne fonctionnons que sur la base du bénévolat. Nous ne fonctionnons que sur la base du bénévolat et nos membres bénévoles s'engagent vraiment de façon très active dans des tâches très diversifiées et très longues. Et par ailleurs, nos charges s'accentuent avec des objectifs qui deviennent de plus en plus peut-être ambitieux, avec aussi des nécessités, la communication. Maintenant, nous sommes engagés dans une opération importante de numérisation de notre fonds documentaire, parce que dans notre tradition, quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que nous bénéficions d'un fonds documentaire exceptionnel, 71 000 ouvrages dans notre bibliothèque, des ouvrages du 17e, du 18e, beaucoup avant la Révolution, des ouvrages remarquables, certains manuscrits. On vous a donné un exemple ici. Et nous sommes engagés dans une phase de numérisation. Donc tout ça, ça crée des frais supplémentaires. Et nous avons besoin, pour maintenir notre rayonnement, qui je pense est important pour l'attractivité de la cité, aussi pour la visibilité de la cité, d'aide complémentaire. Nous recevons des subventions au niveau des collectivités, de la mairie et du conseil départemental. Nous n'avons aucune subvention de la région. Et il faut dire que ces subventions sont pratiquement toutes consommées dans l'attribution des prix, nous finançons les prix. Et donc, notre fonctionnement de base, il est pratiquement réalisé sur la base des cotisations de nos membres. Donc, nous auto-finançons les conférences que nous organisons, nous avons beaucoup de choses. Donc, je crois qu'il faudrait que nous soyons aidés de façon supplémentaire à deux niveaux. Je voudrais solliciter auprès de vous, bien sûr, je le fais parce que vous voulez, c'est un peu gênant, mais une aide exceptionnelle pour la numérisation. Il nous faudrait une aide exceptionnelle, modique, mais de l'ordre de 2 500 €, ça nous permettrait de boucler un volant de numérisation, étant donné que la Bibliothèque nationale de France prend les 50% des opérations de numérisation. Et puis, la demande peut-être la plus difficile à faire, que je formule auprès de vous, c'est que les efforts de nos membres bénévoles ne sont pas actuellement suffisamment exploités ou valorisés par manque d'un personnel de secrétariat. Nous n'avons aucune aide permanente en regard de nos investissements très nombreux dans de nombreuses activités. Une aide à temps partiel serait pour nous un ballon d'oxygène extraordinaire et un effet catalytique pour amplifier notre efficacité. Voilà, Monsieur le maire, Monsieur le président de Toulouse Métropole, quelques présentations rapides de nos activités, de nos ambitions, et vous comprenez aussi de nos besoins. Et je vous remercie très très vivement et très sincèrement.